Parlons sport sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de sport. On va parler donc 1h30 de joute. Hein, vous allez voir un petit peu, c'est un sport qui n'est pas très très connu, mais bon, voilà, qui mérite vraiment d'être mis en lumière. Donc c'est la raison pour laquelle on va parler de joute. Notre Jean-Yves National n'est pas là, mais on le salue parce que je pense qu'il nous écoute de l'hôtel où il se trouve. Et au moins, comme je vais parler rugby, il ne m'embêtera pas. Parce que le top 14, c'est vrai que clairement, on n'a pas brillé, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, concernant justement les joutes, donc on va accueillir les membres de la Société des Jouteurs Lillois avec les deux coprésidents. Tout d'abord, Éric Beaumont. Bonsoir, Éric.
Bonsoir.
Et Thierry Domenin. Bonsoir,
bonsoir,
Thierry.
Bonsoir, tout le monde.
Vous allez bien tous les deux ?
Oui, très bien.
Bon, moi je suis arrivé, je m'attendais à voir les grandes perches et tout ça.
Des lances.
Voilà. Et je suis arrivé, il n'y avait pas. Donc,
Monsieur, ça peut se faire hein, à l'occasion si vous voulez. Hein.
Oui. Bah, bien sûr. Bon, on aura l'occasion justement de développer là-dessus. Vous êtes venu en plus avec des supportrices, ça tombe bien. Mademoiselle, bonjour.
Des jouteuses aussi.
Des jouteuses ?
Eh, oui.
Ah, c'est aussi masculin que féminin ?
Oui.
Bah, on en parlera, tiens.
Ouais.
Valérie ?
Oui, bonjour.
Alors, tu vas bien ?
Ça va, je te remercie.
Bien passé ton week-end ?
Très 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 bien, merci.
Bon. Et mon petit Théo ? Il va bien ?
Salut Yolel.
Tu vas bien ?
Ça va, ça va. Ouais.
Bon. Tu te rappelles le deal qu'on a passé ? Des musiques à donf.
Ouais.
Il est plus rapide là.
Ouais, non mais oui. Bon, après, pour les musiques, on va voir ce que ça donne. Parce que ça fait deux émissions, c'est au top.
On va voir ce soir.
Voilà, parce que tu es noté.
Ah ouais ?
Ok.
Oula, il y a une évaluation en plus.
Tu sauras plus tard. Là, c'est les. Bah, bientôt, c'est le bac, le brevet.
Il va rater là.
Et toi, tu seras évalué par rapport à ton émission.
D'accord.
Bon, ma petite Valérie, chérie.
Oui.
Ton homme nous écoute, tant pis. Hein.
Ouais,
il n'est pas jaloux.
Non.
Qu'est-ce qu'on avait comme résultat ?
Bon, on a quelques résultats sportifs. Pas beaucoup, parce que ça y est, hein, on arrive à la fin de saison de beaucoup de sports. Pas comme les joutes, parce que je crois que vous, ça commence. Les autres, ben, tout ce qui est foot, ouais. Tennis, basket, en fait, tout ça, ça s'arrête. Donc, je vais commencer avec...
Les jouteurs, c'est les marmottes ? Ils hibernent l'hiver.
Non, ce qui est de bien, c'est que nous, c'est que quand les sports traditionnels, classiques s'arrêtent, nous, on commence. Donc, du coup, on les récupère.
Voilà.
Ouais, c'est bien.
Récupérer au moins les spectateurs. Exactement.
Ah, et puis même les acteurs aussi.
Ouais. Ah oui.
Les sportifs.
Ah ben oui, pourquoi pas. On en parlera tout à l'heure. Allez, je vais commencer avec l'ABC Carpentras, donc avec du basket en U15 garçons, les Angles, donc recevaient l'ABC de Carpentras. Et l'ABC de Carpentras s'est incliné 49 à 52. Il y avait aussi la finale de la Coupe de Vaucluse chez les filles en U18. Et Carpentras, malheureusement, s'est incliné sur le score de 58 à 66 face à Nyons. Et c'était aussi à Nyons. Il y avait le basket aussi avec les huitièmes de finale play-off de National 1, masculin. Hein, et le Havre, donc c'était le Havre-Sorgue. Donc Sorgue se déplaçait au Havre. Et le Havre a mis une dérouillée. Hein, c'était logique.
Ouais, mais si Jean-Yves avait été là, il aurait dit c'est la faute à...
L'arbitre. Non, mais là, ce n'est pas l'arbitre. C'est le Havre
non,
était une équipe beaucoup plus forte. Hein, de toute façon, c'était les favoris. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Puis voilà. Allez, je continue avec les Archers de Saint-Siffrin. Le samedi après-midi, donc 7 archers ont pris part à un tir extérieur organisé par le club des archers. Et ce tir était qualificatif pour les championnats et la Coupe de France. Mathis Tenon et Mathieu Puig, qu'on a l'habitude d'entendre, donc se classent premier. Marie Play, donc Cédric Noto et Jean-Claude Marchand finissent seconde. Donc eux sont qualifiés sans problème. À Lille-sur-la-Sorgue, Gérard Nary, lui, a accompagné 4 jeunes du club pour une compétition qui leur était réservée. En niveau 1, Chiara Divita et Arthur Lounis termine premier. En niveau 2, Lilian Corbin se classe 3e et donc accède au niveau 1. Et en niveau 3, Thibaut Debuyère se classe 3e et accède au niveau 2. Donc ce sont des jeunes qui commencent et qui accèdent au niveau supérieur. Donc bravo à tous ces athlètes. Il y avait dimanche aussi, donc le club a organisé la seconde manche de division région PACA. Et 32 équipes, soit plus de 150 archers se sont déplacés de toute la région PACA pour prendre part à la compétition. L'équipe classique homme composée de Mathieu Tistenon, Christophe Sub, Loïc Cochet et Benoît Bétron se classent 3e à l'issue des tirs qualificatifs. Il y avait du hand aussi avec, comme d'habitude, nos amis de Mazan. En National 2, Mazan continue sa perf. Hein. Elle a été l'emportée face à Bouillargues, 26 à 25. Donc cette nouvelle victoire laisse entrevoir une dernière journée palpitante parce que Ajaccio, donc, qui a battu l'étoile Beauvallon se déplacera à Hyères. Bon, alors, je vais juste dire à nos invités que, que la Nationale 2 est troisième à un point des deuxièmes. Donc, il suffirait qu'Ajaccio, on va être un peu chauvin,
donc,
perde.
En fait, je résume. L'équipe première de Mazan qui joue en National 2 est troisième.
Voilà.
C'est ça. Voilà. La National 2 n'est pas troisième parce qu'ils sont deuxièmes.
Ouais, ils sont troisième. Et voilà, il faudrait que Ajaccio perde le match la semaine prochaine pour pouvoir être deuxième et pouvoir prétendre à jouer on va dire une sorte de petite finale pour accéder en National 1.
Ah oui, c'est bien.
Mais bon.
Attends, ouais. Juste une parenthèse parce que je t'ai parlé que j'avais des résultats. C'est la SPTT Tennis qui a joué. Ils ont participé à plusieurs tournois ce week-end. Donc, à noter Olivier Thélène qui s'est hissé en demi-finale du tournoi de Bédouin.
Ah, bien.
Voilà. Tout comme Fabien Pascal. Et puis, il y a Laurent Chavonnet qui a disputé la finale du tournoi. Et qui, donc, c'était le tournoi de Sarian. Et il a gagné. Voilà. Donc, félicitations. Et puis, il y a eu également de belles performances au niveau des joueurs de la SPTT Tennis.
Donc, merci à Marie. Je suppose que c'est Marie-Pierre Milesi qui t'a envoyé ça.
Même pas.
Même pas, la présidente. Bon.
J'ai été chercher moi-même l'information.
Eh bien, c'est bien.
T'as vu un peu ?
Enfin, on passe le bonjour à Marie-Pierre, de toute façon.
Si, on est branché sur les réseaux sociaux. Ouais. Hein.
Allez, je continue. Comme Jean-Yves. Je continue avec le hand, avec la pré-nationale. Mazan recevait La Ciotat et Mazan s'est imposé 27 à 20. Au niveau des moins de 15 ans Elite PACA, Mazan s'impose face à la Concernade sur le score sans appel de 13 à 31. Et chez les moins de 13 ans équipe 1, les championnes de Vaucluse s'imposent face au Thor sur le score de 29 à 14. Il y avait du football aussi, pas beaucoup, mais il y en avait encore. C'est les dernières journées. En Régional 1, donc 26e et dernière journée, Perne recevait Berre. Et une fois de plus, ben Perne s'est incliné sur le score de 0 à 1. Et Perne, au classement général, est 13e et jouera la saison prochaine en Régional 2. En Régional 2, poule C, dernière journée aussi, Antibes-Carpentras. Là, Carpentras s'est pris une dérouillée 5 à 0. Et,
ah
là,
oui,
et là, c'est la même chose. Carpentras jouera en D1 l'année prochaine. Donc, contre-performance pour nos deux équipes.
Donc, Perne descend et Carpentras descend.
Voilà.
Bah,
dommage.
Tant pis pour eux.
Il y avait Grand Vaucluse en D1, donc Perne recevait Entraigues. Perne l'a remporté 3 à 1. Perne est 9e au classement général. En D2, poule A, l'étoile d'Aubune rencontrait Orange, 10 à 0. C'est pas du rugby, hein, c'est du foot. 10 à 0. Donc au classement
général...
Non,
c'est bien de préciser parce que quand tu vois des résultats comme ça, tu te dis waouh.
L'étoile d'Aubune est 6e. En D3, poule A, 23e journée. Donc Monteux recevait Courtaison. Là, pareil, Monteux l'a emporté 6 à 1. Et au classement général, Monteux est 12e malgré tout. En poule B, étoile d'Aubune. Donc Carpentras, 5 à 3. Altin, Caron, 3 à 1. Sarian, Bolène, 1 à 2. Au classement général, Carpentras est 2e. Donc étoile d'Aubune, 8e. Sarian, 10e. Et Caron, 13e. Et avant-dernier.
Ouais, mais ils sont pas bons.
Non, ils sont pas bons, Caron.
Bon, pas du tout. Ah ouais. Et Saint-Didier, on n'en parle plus depuis quelques temps.
Ouais, ben non, mais je t'ai dit, Saint-Didier, la dernière fois, il était un peu mieux. Là, de ce côté-là, il se classe un peu mieux.
Hein.
Il y avait aussi du motoball. Nos amis carpentraciens.
Ah,
ouais, c'est très bien. Carpentras recevait Houlgate et Carpentras l'a emporté 8 à 2.
C'est bien.
Monteux, lui, recevait Camaré et ben ça, c'est Camaré qui l'a emporté 2 à 1.
Non, mais Camaré, ils sont bien partis.
Ouais,
hein.
Ouais. Au classement général, quand même, Carpentras est 3e à 1 point de Neuville et de 3. Hein. Et Monteux est 6e. Camaré, il est entre le 3e et le 6e. Hein. Ils sont pas... Bon, ils se touchent tout. Hein. C'est les trois premiers matchs, là, pour l'instant. Voilà, voilà. Après, je sais que tu voulais nous parler de clubs nationaux.
Ouais, mais
de rugby.
Bon, on peut parler du rugby à 13, parce que c'est vrai, c'est quand même quelque chose. On en a parlé la semaine dernière.
Oui.
Mais on a les Dragons catalans qui jouent en Super League.
Ouais.
Hein, je peux te
courant. Et qui l'ont gagné.
Et là, ils ont fait un super match, une victoire éclatante contre Wigan. Je sais pas si ça se prononce comme ça. 33 à 16. En plus, il y a eu un record d'affluence ce jour-là, donc c'était vraiment très très bien pour assister à ce match, parce que c'est vrai que le rugby à 13, c'est pas très très médiatisé, mais là beaucoup de monde, une super victoire donc des Dragons catalans.
Je sais pas s'il y a pas un Carpentras.
C'était au Camp Nou de Barcelone. Oui.
Et je crois qu'il y a un Carpentrasien dans cette équipe. Si
bah,
je
peut-être.
Me souviens
bien. Bah, Jean-Yves, si tu nous entends, tu nous envoies un petit message, que je sais que lui, il connaît la composition par cœur. Mais bon, voilà, en tout cas, franchement, en Super League, les Dragons se portent très très bien.
Oui. Il y avait aussi du rugby à 15.
Ouais. Mais alors, ce que je propose à Théo, c'est de faire une petite pause musicale. Si t'es d'accord. Alors, il y a deux options. Soit tu chantes, soit tu nous mets une super musique.
Je crois qu'il va mettre la musique.
Tu vas mettre la musique, hein. Allez, à tout de suite.
Sleepless nights at the chateau. Visualize it. I'll give it something to do. crunch, crunch wherever we go. Visualize it.
I'll give us something to do.
Avec Lionel et Valérie sur RTVFM. Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio après cette magnifique musique, donc les puristes apprécieront. Valérie, on peut nous réécouter quand ? Parce que Jean-Yves n'est pas là pour l'interrogation.
Mercredi matin, de 6h30 à 8h, donc sur le 102.2, hein. On peut aussi nous écouter en direct hein, sur le www.rtvfm.net.
Mais quand ? Mais non.
Oui, mercredi. Même mercredi matin aussi. Non, je dis des bêtises. Si.
Et mais tu dis jamais de bêtises.
Ouais, non. Et tu normalement à partir de mercredi ou jeudi, il y aura le podcast. Donc on pourra nous réécouter en podcast aussi. Les podcasts qui fonctionnent très bien.
Ouais.
Donc il ne faut pas hésiter à aller écouter. Donc,
mais on peut les retrouver où les podcasts
tout simplement sur le site internet, ou sur le Facebook, je sais aussi. Sur le site internet, il y a marqué podcast, vous descendez et vous allez voir RTV Sport et là vous retrouvez le podcast que vous voulez. On parle de sport.
Fort, Valérie.
Voilà. Sinon, il y a toutes les émissions de la radio qui sont aussi en podcast et qui fonctionnent très bien.
Bon. On va parler un peu de sport national.
Oui.
Et en plus. Je vais parler un peu de foot.
Ah.
Alors là, franchement, hein, je suis un nouvel nom parce que le football, c'est pas mon trip. Mais je me dis, il y a des auditeurs quand même qui aiment bien le foot.
Ah oui.
C'est vrai que cette année, on n'a pas tellement parlé. Hein,
parce on n'a pas beaucoup parlé.
Non, non.
Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup reçu de clubs de foot.
Non, on a reçu Serge, je crois. C'est
oui.
Tout.
Voilà. Donc, c'est bien d'en parler un petit peu.
Oui.
Même si le PSG va encore gagner cette année. Hein. Mais n'empêche que, voilà, bon, j'ai donné quelques résultats.
Gagne avec moins de panache quand même. Hein.
Ouais. Bah, après, c'est que au niveau national. Hein. Au niveau européen, le PSG est toujours aussi mauvais. Mmh. Samedi, il recevait Dijon. Donc Dijon, effectivement, a pris la raclée 4-0. Bon, Dijon est 19e, donc ça peut s'expliquer un petit peu aussi. Quoique le PSG, souvent, ils sont spécialistes des contre-performances contre des pas forcément bons.
C'est pour ça que je te disais, ils ne sont pas aussi bons que l'année dernière.
Alors Lille, pareil, a recevé Angers. Là aussi, ils ont... Parce qu'il y a eu énormément de buts ce week-end. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le foot.
Oh, de loin.
Pas beaucoup.
De loin,
donc 4-0 pour PSG contre Dijon.
Ouais, ça,
Lille, 5-0 contre Angers.
Ça, j'ai vu aussi. Ouais.
Ça, c'était un grand danger. Non, c'était un petit jeu de mots. Ensuite, Lyon recevait Caen. Lyon qui, était 3, qui est 3ème, 4-0. Ensuite, on a Saint-Etienne, 3-0 contre Nice, et recevait. Donc, les 4 premiers, en fait, qui sont donc le PSG,
Lille, Lyon,
Saint-Etienne, et recevait. Mm-hmm. Montpellier recevait également, mais là, par contre, ils ont fait un match nul contre Nantes, qui est 10ème. Par contre, très très belle performance
Marseille.
De Marseille
à l'OM. Ils sont gagner à l'extérieur.
Ça. Ouais, ils ont gagné contre le 15e qui est Toulouse, 5-2. Et puis notre résultat, c'est Monaco parce qu'ils sont pas très loin de chez nous. Bon, c'était le 17e Monaco contre le 16e Amiens et Monaco a gagné 2-0, donc une petite victoire. Donc comme on le disait, donc le PSG, bon, voilà, champion de France, hein, on ne dit pas parce qu'ils ont 91 points. Le LOSC, 75 points, donc il y a quand même pas mal d'écart. Après, Lyon est un petit peu plus loin, ils ont 69 points. Saint-Etienne se retrouve à 65, donc là, il n'y a que 4 points. Ça se rapproche un petit peu. Et puis, Montpellier est un peu plus en bas, 5e, avec 59 points.
Ouais.
Marseille est 6e.
Ouais, oui.
Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas européens, parce que je crois que c'est les
4 premiers. Voilà, y a, ça s'arrête à Saint-Etienne.
Voilà, donc 6e pour l'OM, malgré les contre-performances de l'OM de l'année. Je trouve que ce n'est pas une place si mauvaise. Et par contre, le trio de fin, c'est le dernier, c'est Guingamp. Alors eux, par contre, on va les retrouver en Ligue 2 l'an prochain. Ils ont 27 points seulement. Dijon, bah, c'est la Mourtade qui leur est montée au nez avec 31 points. Ils sont avant-dernier. Et 18e, c'est Caen. Voilà, donc 33 points. Donc voilà, c'est vrai que les trois derniers, c'est pas folichon.
Non, c'est pas terrible.
Alors, la semaine prochaine, bien sûr, il y a d'autres matchs. Alors, on sera à la 38e journée.
38e et dernière, normalement, non?
Je crois
que c'est.
J'ai pas regardé, mais je crois, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'OM qui reçoit Montpellier. Donc, ce sera un beau petit match, je pense, c'est vendredi. Lyon, lui, se déplace à Nîmes. Monaco se déplace à Nice. Ensuite, on a quoi d'autre? Lille qui va se déplacer à Rennes. Saint-Etienne se déplace à Angers. Et le PSG, donc, qui se déplace à Reims. Voilà.
Ouais, qui ne devrait pas avoir de problème non plus.
Ouais. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis, je voulais vous parler un peu de top 14. C'est vrai que le rugby à 15, on zappe un petit peu. Donc, concernant le top 14, effectivement, je vais parler de mon équipe fétiche, la SM, hein, qui malheureusement a perdu. Voilà, je l'avoue. Bon, il se déplaçait à l'extérieur.
Bon, c'était un match sans conséquences, hein, quand même.
Non, sans conséquences. Mais n'empêche que, bon, voilà, c'est vrai qu'ils se sont déplacés à Toulon. Et Toulon, ils sont quand même 10e, donc c'est pas terrible. Et ils ont perdu 11-32. Voilà. Ouais. On va passer ça. Par contre, donc, ceux qui sont premiers au classement, hein, c'est Toulouse. Eux, par contre, l'ont emporté contre l'Union Bègles-Bordeaux à
36-43.
36-43.
Ouais.
Merci Valérie de ton aide.
Je t'en prie.
Lyon, lui aussi, l'a emporté, qui est troisième contre le Stade Rochelet, 29-19. Et le Racing 92, hein, qui fait une belle performance cette année. C'est vrai qu'ils ont eu une année d'avant un petit peu en demi-teinte. Là, ils sont quatrième pour l'instant. Et ils ont vraiment fait une très très belle place contre l'USAP, 52-14. C'est le plus gros score, en tout cas, du week-end. Le Castres Olympique l'a emporté aussi contre Agen. Ce qui donne au classement général, donc Toulouse, premier avec 93 points. Juste derrière la SM, 82 points. Bon, après, là, c'est vrai que je pense que ça ne va pas changer.
Le classement ne changera pas parce que c'est la dernière journée. Ouais.
Lyon se retrouve avec 74 points. Le Racing 92, 69 points. Et ceux qui ferment le classement, je le disais, hein, Toulon qui est 10e, J'ai 11e, donc j'ai la section paloise. Par contre, je n'ai pas les autres scores.
11, Agen 12e, Grenoble 13e
ouais.
Et Perpignan dernier 14e.
Voilà, donc Perpignan risque de se retrouver
l'année prochaine
en dessous.
Voilà.
En Pro D2, ouais. Mmh. Quoique après, c'est pas non plus. On pourra parler de la Pro D2, mais bon. Là, je peux donner par contre les prochains matchs. La semaine prochaine, donc, ça sera la 26e journée. Donc, je vais vous donner le. Toulouse va recevoir Perpignan. Et Clermont recevra le Montpellier Hérault. Donc, ça sera un beau match aussi. Parce que j'aime bien Montpellier comme équipe.
Ça oui. joue.
Là, ça joue bien. Là,
c'est le deuxième technique. Contre le sixième.
Ouais. Donc, voilà.
Ça devrait
et
être
puis,
un beau
le
match.
Racing 92 se déplacera à Agen. Et puis, voilà, quoi.
Oui, donc, normalement, là, ça devrait être une formalité pour le Racing Club hein, de 92, Racing.
Bon, allez, on continue. Eh bien, tiens, on va parler de joute.
On va parler de joute.
On va jouter.
Voilà.
C'est ça, on joute ?
Oui,
on
joute, ouais. Absolument.
Un sport beau à voir.
Beau à voir, beau à faire.
Je ne sais pas, mais beau à voir, c'est sûr. Si, c'est une discipline sportive quand même.
Ah, oui,
parce qu'il faut être quand même, il faut avoir certains...
On est une fédé et tout.
Moi, ma première question, c'est quoi ? C'est un sport ou un loisir ?
Non, c'est un sport pour moi.
Enfin, c'est un vrai sport.
Mais on s'en rend compte quand on le pratique.
Comment ?
On s'en rend compte quand on le pratique.
Ah voilà.
Voilà.
Parce qu'il faut quand même avoir...
Parce qu'en fait, vous êtes un peu les gladiateurs de l'art moderne.
Ouh là là.
Non, c'est vrai. Vous avez... Non, mais c'est vrai.
Oui, oui,
il manque plus que la carapace et puis...
Je ne vous connaissais pas l'armure dans la sorgue ou dans la rivière.
Ça... L'armure, le problème, c'est qu'il va falloir remonter à la surface.
C'est ça, ouais.
Non, mais c'est vrai que par rapport à la lance, on voyait à l'époque avec les chevaliers sur leurs chevaux et tout ça, sur leur monture, c'est un peu pareil.
Oui, mais c'est la joute nautique qui a inspiré les chevaux. Hein. Ce n'est pas les chevaux qui ont inspiré la joute nautique, c'est l'inverse.
Et oui, parce qu'elle n'est pas toute jeune, hein, la joute nautique.
Mais ça, faut voir avec l'ancêtre.
J'avais lu que ça datait de l'Antiquité.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Les premières représentations datent de l'Antiquité, effectivement.
Ouais, ça fait 2000 ans d'existence.
Ouais.
Tu te rends compte un peu ? On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de sports qui ont 2000 ans. Hein.
Non, non, c'est très très vieux.
À part les arts martiaux, hein, puisqu'on en avait parlé souvent, mais ouais. À part les arts martiaux, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sports...
Et comment est-ce que vous savez comment la joute est venue, on va dire, parce que c'est vrai que se retrouver sur un bateau et puis avec une lance pour essayer de faire tomber quelqu'un dans l'eau, faut avoir de l'imagination pour trouver ce sport quand même.
Moi, je pense qu'à la base, beaucoup de villes étaient établies au bord des points d'eau, quoi. Donc du coup, les sports nautiques, ils s'imposaient de fait, quoi. Donc du coup, ils ont commencé à se lancer des défis comme ça, quoi.
C'était pour passer un petit peu le temps, quoi.
C'est ça. Oui.
L'île sur Sorgue, c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas.
Comme ils passaient le temps dans les arènes, ils passaient le temps sur l'eau.
C'est ça.
Ils se retrouvent entre pêcheurs.
Parce que la joute, les premières joutes, c'est quel pays qui les a inventées ? C'est la France ?
En Grèce, non. Les premiers trucs, ça vient de la Grèce. Les premières représentations étaient trouvées en Grèce.
En Grèce ?
Ouais. Et après, ça c'est un peu de mémoire. Hein. Après, on n'a plus trop trouvé dans ces pays-là. Et puis, ça s'est un peu mis en sommeil. Puis ça s'est réveillé après en France. Et il n'y a plus qu'en France que ça se pratique, ce sport.
Ah bon ?
Il n'y a plus aucun autre pays ?
Moi, je n'ai pas eu 20 d'autres pays qui ont pratiqué des sports comme ça.
En Belgique ?
Bon, non, mais je veux dire, en Europe, quoi, là près de chez nous.
En Allemagne et en Suisse.
J'ai jamais vu de club allemand. Par contre, c'est vrai qu'il y a des clubs en Belgique, mais il n'y a qu'un seul club en Belgique, mais ils viennent ajouter à la méthode alsacienne. Pratique la méthode alsacienne.
Mais justement, on parlera des méthodes parce que j'ai compté à peu près, il y a une 13 méthodes à peu près.
Ouf, il y en a.
Ouais, même voire plus, ouais, donc c'est un truc.
Il y en a presque des fois, même chaque village a la sienne. Hein.
Ah ouais ?
Ah oui. Nous d'ailleurs,
c'est des spécialités.
Et qu'est-ce qui change alors ? Non, c'est
le matériel, la méthode, la façon de jouter, la barque des fois.
Ah d'accord, donc au fin de compte, oui.
Oui,
ça peut changer.
Et sinon, on parlait justement de l'histoire un petit peu des joutes. Je voulais juste qu'on termine par rapport à la France. C'est arrivé en France en quelle année, vous savez, non ?
Oula, je me rappelle plus.
On n'était pas nés.
Toi, oui, mais...
Non, je ne me rappelle plus exactement les dates.
Le grand maître, peut-être ?
Peut-être.
Ouais. Tout ce que je sais, c'est les représentations qui en sont faites. Par exemple, Louis XIV était friand de ça, puisqu'il faisait des tournois pour lui. Enfin, bon, mais après, les dates exactes...
Ils disent qu'en 1200, je viens de retrouver quelque chose, en 1270, on a retrouvé quelque chose justement qui avait un rapport, un document hein, se rapportant aux joutes, donc à Aigues-Mortes.
Oui, c'est possible aussi ça. Oui.
C'était les soldats et les marins qui attend en attendant l'embarquement pour la Terre.
Ouais, c'est ce que j'ai vu un petit peu, ce que j'ai feuilleté. Et ça serait les premières joutes en France auraient été justement développées à Aigues-Mortes.
Voilà. Mmh. Ouais.
Et par contre, les sociétés de sauvetage et de joute, c'est ce qu'on appelle.
Ouais. La fédération,
de la, au niveau de la région Rhône-Alpes, on commence à se créer au 19e siècle.
Oui, c'est ça.
Vous, vous dépendez de quel...
Rhône-Alpes, nous on est Rhône-Alpes, mais en fait la fédération, c'est la fédération française de joute et de sauvetage nautique, parce qu'en fait dans la fédération française, il y a les joutes et il y a le sauvetage nautique, la barque. D'accord, il y a deux sections en fait, c'est deux sections différentes. Mmh. Mais tout le monde est licencié sous le même logo, Fédération française de joute et de sauvetage nautique.
Voilà. Et vous faites les deux ?
Non, nous on fait que de la joute. On s'est eu essayer à la barque. C'est plus folklorique. Enfin, pour nous, ça a été vraiment folklorique. Mais bon, on est allé faire deux courses de barque. On en a organisé une à l'île sur la Sorgue. Mais on est allé en faire une à Gruissant et l'autre à 7. C'était très folklore. Hein. Parce que là, ouf, c'était grosse barque.
Non.
On s'est même fait battre par des femmes. Enfin, bref, c'était.
C'était ah, bah, alors, j'imagine.
Non, mais quand vous voyez ces petits bouts de joue, là, les bonnes femmes de 45-50 kilos, et nous, on arrivait, les gros molosses, là, sur 2 minutes, on s'est pris 30 secondes, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, non, on s'est fait mettre. Hein.
Alors par contre, il y a une chose aussi, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi on appelle, on va dire, une société une société au lieu d'une association?
Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'à Lille, en général, les clubs s'appellent club de Rhône-Alpes, enfin de Loire-sur-Rhône. Ça. Et nous, Lille-sur-Sorgue, en fait, c'est... il faut voir que le club des joutes de l'Île-sur-Sorgue est à la base de plein de clubs nautiques liés à la Sorgue. Donc à la base, c'est 3 ou 4 amis qui ont mis en place le club de joutes. Et à partir de là, sont nés le club de Negoching, la féerie nautique. Voilà. Et donc du coup, je suppose qu'au départ, ça faisait plus société que club, quoi, en fait.
Parce qu'en société, on a les sociétés de chasseurs, par exemple.
Ouais, mais c'est parce que ça fédérait plusieurs, entre guillemets, activités, quoi. Je suppose que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Société des Jouteurs Lillois.
La société au niveau de Lille, mais c'est société aussi dans tous les clubs de France.
Non, c'est une particularité
chez vous.
Moi, je ne connais pas d'autres qui s'appellent Société de... Il y en a peut-être, hein, il y en a sûrement, mais voilà. Mais nous, à Lille-sur-Sorgue, l'histoire, elle vient de là, quoi. On a des représentations de joutes qui datent des années 1900. Mais là, c'était pas organisé du tout. C'est-à-dire qu'une à deux fois par an, les hommes de la ville se lançaient des défis. Donc, ils prenaient des negeching, des grosses barques typiques de province, de Lille-sur-Sorgue, entre autres, mais de province en général. Et ils leur aménageaient derrière une petite plateforme. Et puis voilà, ils se lançaient des défis comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette forme de joute est restée typique à Lille-sur-Sorgue, qu'on appelle la Lilenque, la Lilloise en provençal.
D'accord.
Et petit à petit, en 1952, donc, ce groupe de personnes a dit il va falloir faire quelque chose, on va essayer de fédérer et de créer un club, de structurer tout ça. Et ils ont créé donc, la Société des Jouteurs Lillois.
Bon, voilà. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Toutes celles qui portent la frange à la quête mousse, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la frange à la quête mousse. Jeans, slim, tight, on cut.
m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Ça m'énerve. Si t'as la black card, et ben tu verras leur fesse. Ça m'énerve. Toutes celles comme toi qui écoutent beaucoup trop fort.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Si vous nous rejoignez, bah écoutez, soyez les bienvenus. Nous parlons de joute aujourd'hui avec la société des jouteurs lillois. Et pour en parler, on a les deux coprésidents, Eric Beaumont. Rebonsoir Eric.
Rebonsoir, bonsoir à tous.
Et Thierry Domenin, deuxième coprésident. Rebonsoir Thierry.
Bonsoir tout le monde.
L'autre moitié.
L'autre moitié, voilà. Vous êtes mignons tous les deux.
Ouais. Oh, ça entend bien ça.
Bon, heureusement.
Même si non, mais je veux dire, on se complète bien quoi.
Même si
il y a que deux coprésidents ou il y en a encore un autre?
Non,
que deux.
Que deux. Non, parce que si vous n'êtes pas d'accord, un troisième permet de trancher.
Mais toutes les décisions se prennent de manière collégiale de toute façon.
De toute manière.
Ouais, ouais.
Ah oui. Ça, c'est...
Alors, on parlait justement un petit peu de l'histoire des joutes. Valérie, tu avais trouvé que c'était même avant Jésus-Christ.
Ah oui, c'est moins 2760 ans avant Jésus-Christ. On a trouvé des traces au niveau de l'Empire égyptien déjà. Tu te rends compte un peu?
Oh. Ah oui.
Ah, c'est très très vieux.
C'est vraiment un sport, oui, très vieux. Ils disent qu'à un moment donné, quand même, à la fin de l'Empire, pendant plusieurs siècles, on n'en a plus entendu parler.
Ce que je disais tout à l'heure, ouais.
Ah, ouais. Et puis qu'il a ressurgi comme ça. Ouais, ouais. Mmh. Et ils disaient que c'était plus ou moins pratiqué par les gens qui habitaient près de l'eau.
Mais oui.
Voilà. Mmh. C'est vrai que ça devait être toujours leur façon de s'amuser, de se divertir pendant des siècles. Voilà.
De l'eau ou d'une rivière?
Oui, oui, enfin de l'eau, près
de l'eau.
Voilà,
en
général, c'est des rivières, effectivement, ou des plans d'eau, ou je ne sais pas.
On parlait tout à l'heure des différentes méthodes de joute, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup.
Énormément.
Il y a la languedocienne, la provençale, la lyonnaise, l'égivordine, l'alsacienne, la parisienne. Qu'est-ce qui différencie, en fait? C'est quoi? C'est la technique de joute ou carrément le bateau en lui-même?
Le bateau, le matériel, la technique, enfin...
Hein. Ouais, tout.
Oui, les règles même, les règles
les
de...
Règles, hein.
Donc, si j'ai bien compris, vous qui faites la provençale, je suppose?
Non.
Alors, non.
Non?
Non, on fait l'Illenc ou la Gévordine.
D'accord. Donc
la provençale, c'est plus sur 7, non?
Ouais. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération française de joute reconnaît 5 méthodes.
Mmh.
Et donc, à ce titre, organise les championnats de France dans ces 5 méthodes officielles. D'accord?
Ça, alors, c'est... Quelles sont-elles alors?
Donc, il y a la provençale, il y a la languedocienne, il y a la lyonnaise et gévordine. Et il y a l'alsacienne et la parisienne. Voilà, c'est ça, c'est les 5 méthodes qui sont reconnues par la fédération. Et donc, il y a 5 championnats de France.
C'est-à-dire, oui, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, vous, en tant que rencontrer la parisienne.
Non.
Non.
C'est impossible.
Bon, on pourrait, mais je veux dire, on n'a aucun intérêt puisqu'on ne s'entraîne pas, on ne connaît pas les techniques. On n'a
pas le matériel.
Voilà, on n'a pas le matériel.
Mais leur matériel ne serait pas compatible avec le vôtre, c'est-à-dire deux méthodes différentes ne pouvaient pas s'affronter.
Non.
Les seules méthodes qui sont compatibles, c'est la lyonnaise et la gévordine, parce que le matériel, les bateaux sont les mêmes. Ce qui les différencie, c'est que les bateaux ne croisent pas sur le même côté. Nous, on fait que la gévordine, les bateaux se croisent sur leur flanc droit, alors qu'en lyonnaise, les bateaux se croisent sur le flanc gauche.
Mmh.
Donc, si vous voulez, l'endroit où on tape est différent. On tape d'un côté plus à droite et de l'autre plus à gauche. Mais voilà, c'est les seules méthodes qui permettraient, on va dire, de passer de l'une à l'autre assez facilement.
Oui.
Par contre, les autres, c'est complètement différent.
Et donc, tu dis qu'il y a un championnat de France.
Ouais.
Quel est le meilleur club en français?
Alors, je ne sais pas. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a 7 titres de champion de France au club. On a eu 7 titres de champion de France. Ouais. Le premier, c'est mon meilleur ami, Alain Gontard. Alain Gontard, qui en 2002 a été champion de France en senior mi-lourd, en gévordine.
Mm-hmm.
Et après, ben, c'est le fils du président de l'époque, donc Pascal Cluzet, qui a eu un titre de champion de France. Après, c'est mon fils qui a eu un titre de champion de France. Deux années d'affilée, 2 titres de champion de France. Et après, le fils d'Alain Gontard a eu 3 titres de champion de France. Donc du coup, on en a 7 en tout.
Ah oui, donc vous êtes un super club.
Bah, non, en termes de résultats, on est quand même, on est pas mal.
Et donc là aussi, il y a un champion de France par méthode.
Alors oui. Et puis, donc, et après, il y a des catégories.
Et par catégorie, bien sûr. Mm. Et les catégories, c'est quoi? C'est catégorie de poids?
âge et poids.
Ou catégorie d'âge.
Donc cadet, junior, senior.
Ouais.
En cadet, il y a deux catégories, cadet léger, cadet lourd. En junior, il y a deux catégories, junior léger, junior lourd. Et en senior, il y a quatre catégories. Senior léger, senior moyen, senior mi-lourd et senior lourd. Voilà. Et donc,
c'est-à-dire que tu montes sur la balance avant de concourir.
Exactement.
Oui. Ah oui. Il y en a qui courent autour du bassin pour perdre un peu de poids. Passer la catégorie.
C'est un peu comme les boxeurs,
c'est
quoi.
Ça.
J'allais faire le rapprochement avec
la veille, ils sont avec la salade pour essayer justement
de faire le poirier derrière les juges pour perdre du poids. Ouais,
ah non, non, c'est très réglementé. Hein. Ouais. Alors le cadet léger, cadet lourd, je crois que c'est 68 kilos, je crois, la marge. Et junior léger, junior lourd, ça doit être aussi dans ces eaux-là, 70, 71. Et après, ben, c'est moins de 65 kilos pour les seniors légers, moins de 78 pour les moyens, moins de 86 pour les mi-lourds et plus de 86 pour les lourds.
Et les chocs sont de plus en plus violents.
Ah ben, Ben Eric, voilà, quand vous avez Eric en face.
Donc toi, t'es en léger, toi, Eric.
Mais moi, je peux courir longtemps avant de changer de catégorie, je veux dire. Je peux faire le poirier une paire d'heures, hein, pas de souci. Non, moi, je suis un senior lourd.
Mais toi, tu cours toujours?
Non, j'ai découvert ça sur le tard, moi.
Ah.
C'est dommage. Je suis dit sur sort, je les ai vus tout jeunes, les joutes. Je ne me suis jamais arrêté. Donc, j'ai découvert ça, j'avais 38 ans. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de participer au championnat de France.
Mais je vous rassure, il se rattrape bien parce que maintenant, il nous fout tous à l'eau. Hein.
Moi, je les régale d'aller sur sort, directement.
Ouais. Et par contre, on parlait donc d'un championnat de France. Par contre, comme c'est la France où il n'y a que... Il n'y a qu'en France qu'on trouve des clubs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat,
non,
de championnat d'Europe, ni rien.
D'ailleurs, ça s'arrête en France.
On parlait de la Belgique, ils viennent jouer en France.
Ouais,
ils
viennent jouer à Strasbourg. Ouais.
Donc en fait, ils sont un petit
Alors, ils ne peuvent, peuvent pas concourir au championnat de France, mais ils peuvent faire la Coupe de France. Ou alors, il faut qu'ils soient de nationalité française.
Ouais.
Comme ils ne le sont pas, forcément. Mais ils peuvent faire la Coupe de France quand même.
Il y a la Coupe équipe. De France, ouais. Il y a aussi la Coupe de France.
Une Coupe de France par équipe, c'est ce qu'ils font d'ailleurs.
Et Lille a gagné la Coupe de France?
Non, nous, la seule fois qu'on a fait deux fois la Coupe de France, on est arrivé quatrième.
Quatrième?
Mal.
Bah, au pied du
Sur quatre. Hein.
Et là aussi, c'est dans les cinq méthodes.
Alors, oui, dans les cinq méthodes. Et là, donc, nous, c'était en Givordine. Et en Givordine, il faut présenter une équipe complète, hein, c'est-à-dire avec les sept jouteurs.
Moi, je suis surprise, je reviens juste deux secondes sur, il n'y a que la France et un peu la Belgique, avant l'Allemagne, que l'Italie ne soit pas, ça ne soit pas un sport au niveau italien. Parce que quand même, quand on voit que
Venise,
c'est
par exemple,
voilà,
moi, j'ai entendu parler de Venise, j'ai entendu parler de Venise, mais je n'ai jamais cherché à plus loin. Mais il semblerait qu'à Venise, effectivement, il y ait des joutes. Mais j'en ai pas eu trace, alors donc je ne sais pas.
Oui, parce que c'est quand même...
Il y a de l'eau. Hein.
Oui, et puis... ça vient de chez eux quand même, un petit peu de la Grèce et après un peu de là-bas, hein, de l'Italie, des Latins. Quoi. Donc c'est quand même surprenant.
Ouais. Donc pas le championnat d'Europe, bon, c'est un petit peu dommage. Par contre, tu parlais donc championnat de France, Coupe de France. Par contre, il y a deux autres trophées. Il y a le trophée des champions. C'est quoi exactement, vous
connaissez? Le trophée des champions, mais ça c'est dans une méthode, ils appellent ça le trophée des champions.
Ah oui, c'est une méthode particulière. Et j'ai vu aussi le challenge Bernard Dauvin.
Alors, nous, en Givordine et en Lyonnaise, hein, les tournois, on appelle ça des challenges.
Ouais.
Et donc, chaque week-end, il y a un challenge. Nous, à l'Île-sur-Sorgue, c'est le challenge Antoine-Nicolas. Donc, on ne le fait plus depuis deux ans, mais on compte bien essayer de refaire. Mais bon. Donc, ces challenges, tous les week-ends, permettent aux jouteurs d'accumuler des points. Et à la fin de la saison, il y a un classement qu'on appelle le classement du jouteur. Et donc, celui qui a le plus de points remporte ce challenge, ce trophée du meilleur jouteur. Et en parallèle, il y a le championnat de France, qui lui se fait donc par éliminatoire, demi-finale et finale. Et à côté, il y a la Coupe de France qui se fait par équipe. Voilà. Donc,
la Coupe de France, c'est automatiquement
par équipe. Oui.
Et équipe de combien de...
Donc, 7 joueurs pour la Lyonnaise et la Givordine. Et en Provençal, je ne sais plus comment c'est. Enfin bref, dans les autres méthodes, je ne sais plus, puisque bon, nous, on ne les pratique pas, ces méthodes. Mais voilà. Mais donc, si vous voulez, un joueur... de chez nous en Lyonnaise et Givordine peut concourir dans les trois catégories. Coupe de France si son club est inscrit donc avec une équipe complète. Trophée du meilleur jouteur. D'accord. Donc c'est un maillot arc-en-ciel qui donc l'année d'après est porté par le premier donc dans chaque catégorie bien sûr, hein, d'âge et de poids. Et après donc le champion de France qui lui porte le maillot tricolore l'année d'après. Donc il est très, très 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 reconnaissable dès qu'il monte sur le bateau. Celui que vous voyez avec Mario tricolore, c'est le champion de France en titre.
Ah oui,
ça fait peur.
C'est qu'il a pas été mauvais l'année précédente.
Ça fait peur. Ça fait peur.
Par contre, tu parlais de toujours les méthodes, parce que c'est vrai que c'est un peu, c'est quand même assez particulier.
C'est très particulier.
Voilà. Tu me parles beaucoup de la givordine chez vous, mais le Lilienk, c'est pas reconnu?
Alors non, la Lilienk, non.
La Lilienk.
C'est local.
C'est local.
C'est local.
Il y en a plein.
Et
de
par exemple, entre la givordine et la Lilienk, donc comme c'est dans votre club, vous utilisez, vous pratiquez les deux.
On peut utiliser le même bateau.
Et c'est quoi la différence?
Les lances et le plastron et la position sur le bateau. La Lilienk, c'est plutôt debout avec un point d'appui, et la givordine, c'est plutôt grand écart avec des grandes lances. La Lilienk, c'est un peu plus court.
Un peu plus court.
C'est facile d'accès.
Valérie, ouais, tu veux le faire?
Pas Valérie. Derrière vous, vous avez deux jouteuses.
Enfants. Deux jouteuses.
Deux jouteuses.
Voilà. On a beaucoup d'enfants aussi qui viennent.
Mmh. Ah ouais.
Et les parents amènent les enfants, ils se piquent au jeu, ils finissent par monter, ils finissent par venir essayer, à part ramer, on les fait ramer aussi. Puis après, ils montent vraiment et ça leur plaît.
C'est, au départ, tu rames, mais après, après, c'est bien.
Au départ, tu rames, après, c'est super.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
People would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause we'll say a little prayer. And if the answer isn't fair, no, you can't call on me when you need somebody. No, you can't call on me when you can't stop the tears from falling down.
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio après cette pause musicale. Et puis, ben, on en a profité pour ramener du monde, hein, Valérie. Donc, il y a Eric Beaumont, toujours hein, coprésident. Rebonsoir, Eric.
Rebonsoir.
Thierry Domenin, le deuxième coprésident.
Bonsoir.
Rebonsoir. Et puis, ben, Eric, t'es pas venu tout seul. Hein. T'as
ben
tes deux filles.
C'est ça.
Qui se sont mordues aux joutes.
Et aussi.
Hein, Ambre, salut.
Bonsoir.
Ambre.
Bonsoir.
Ça va?
Oui.
T'as quel âge?
14 ans.
Et tu fais de la joute depuis?
3 ans.
3 ans. Et ta petite sœur, Jade, ça va Jade?
Oui.
T'as quel âge?
9 ans.
9 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais de la joute?
Ben, je vais juste attaquer, mais j'ai déjà fait l'année dernière.
Ah, donc deuxième année. Oula.
Ambre, elle a dit qu'elle faisait de la joute et qu'elle mettait tout le monde à l'eau. Hein.
Oui.
Bah, justement, on va en parler un
faut
petit peu.
Faire attention à ce qu'elle dit aussi. Hein.
On va en parler un peu tout à l'heure. Comme papa, parce que papa, il a dit aussi qu'il faisait beaucoup de poirier.
Mais non,
en fait.
Mais non, arrêtez de dire
pas
ça.
Pas les costauds.
Au niveau justement du nombre d'adhérents, comme c'est pas très médiatisé, il y a beaucoup de monde qui pratique la joute ou pas, vous savez pas?
Alors chez nous ou...
Non, au niveau national.
Il y a à peu près 4000 licenciés, barque et joute confondues. Hein. Sachant que la barque...
Donc
c'est...
au niveau de la fédération, tu parles?
Au niveau fédéral. Hein. Donc ça veut dire, enfin, il y a à peu près moitié-moitié. Quoi, hein. Donc ça fait c'est 2000 personnes sur la... À tout casser, hein, ça fait pas beaucoup.
Et en Provence?
Alors en Provence, je sais pas.
Et sinon, au niveau national, est-ce qu'il y a une répartition, on va alors, dire, où il y a le plus de jouteurs? Parce qu'on parle beaucoup de la région, on va dire, le golfe du Lion, par exemple, où il y a...
Alors, la Givordine et la Lyonnaise, comme son nom l'indique, est née à Givors et donc dans la vallée à Lyon. Et entre Givors et Lyon, en fait, ils ont gardé le même matériel et tout. Et pour se différencier, ben, ils ont fait croiser les bateaux d'un côté ou de l'autre. À Lyon, ils ont fait croiser les bateaux sur le flanc gauche. Et à Givors, ils ont fait croiser les bateaux sur le flanc droit. Donc, du coup, voilà. Après... nous en termes de joute, on a quoi, la Givordine et la Lyonnaise, c'est essentiellement la vallée du Rhône, d'accord.
Oui, bah c'est en Alpes.
Il y a quelques clubs en nord de Loire, vers Compiègne, là-bas, tout ça, mais sinon c'est essentiellement la vallée du Rhône. Nous, on est les plus bas, les sur Sorgue, dans la vallée du Rhône.
Ah donc, oui.
Après, et on ne joue pas sur le Rhône.
Et on ne joue pas sur le Rhône, oui. Donc ah oui. On est les plus bas, qui est pratiquant.
C'est interdit de jouter sur le Rhône?
C'est pas ça, c'est que tous les clubs de joute jouent sur le Rhône.
Ah oui.
Ouais, les Rhônes, le Rhône ou aux alentours du Rhône. Quoi. Mais nous qui pratiquons la Lyonnaise, enfin la Givordine, hein, puisque nous on fait que de la Givordine, nous sommes les plus bas. Après donc quand on remonte, il y a La Roche de Glun, Bourg-les-Valence, qui sont à proximité. Et après quand on remonte, on arrive donc sur Chasse-sur-Rhône, Ternay, Loire-sur-Rhône, Givors. Voilà.
Et après, c'est Digouin.
Digouin, un petit peu plus haut.
Et les clubs, là, lesquels se débrouillent relativement bien?
Il y en a un de Paris aussi qui descend.
Oui, il y a autour de Paris, il y en a. Enfin, bon. Mais le club qui se distinguerait le plus, actuellement, Givors, c'est un gros club. Givors, c'est un gros club ouais, qui ont pas mal de champions. Bourg-les-Valence ont été très, très bons là, il y a 4-5 ans. Puis là, depuis 4-5 ans, ils faiblissent un peu. La Roche de Glun aussi, La Roche de Glun a eu de beaux champions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Ternay, enfin non, il n'y a pas un club qui domine tout. L'inconvénient qu'on a nous par rapport à tous ces clubs que je viens de vous citer là, c'est que dans un rayon de 30 km quoi, ils peuvent jouter. Nous on est obligé de faire 150 km quoi, pour les jouter.
Oui.
C'est ce qu'on faisait.
Parce c'est un gros handicap. Hein.
C'est un gros handicap. Nous, moi, quand mon fils joutait, tous les week-ends, c'était le plus près, c'était Bourg-les-Valence. Sinon, lui, il a été champion à Digouin, à Melun. On est allé jusqu'à Melun faire des finales. Enfin bon, voilà. On faisait énormément de kilomètres. Énormément.
Alors, les joutes, c'est les joutes nautiques. Il faut être dans l'eau. Il faut savoir nager pour pratiquer la joute.
Oui, c'est mieux. Hein.
Mieux.
Donc au niveau fédéral, à partir de quel âge on autorise à ce que les enfants puissent pratiquer? Je ne parle pas du club, le club on en parlera tout à l'heure, mais au niveau fédéral, est-ce qu'il y a une règle?
Oui, en compétition, les enfants ne peuvent pas jouter avant 11 ans.
Ah oui, c'est...
Ouais. Ah, c'est quand même compétition officielle, c'est interdit de jouter avant 11 ans.
Il y a des raisons?
Oui, essentiellement pour les protéger physiquement.
Et ce n'est pas un jambe tendue, je crois.
Et alors après, nous en Givordine et en Lyonnaise, effectivement, jusqu'en cadet... À partir de 11 ans jusqu'en cadet, ils n'ont pas le droit de jouter les deux jambes tendues au grand écart. C'est strictement interdit.
Parce que c'est dangereux?
Parce que, voilà, pour protéger les membres inférieurs notamment. Parce qu'il faut savoir que cette année, il y a un médecin là, de Lyon qui a fait une thèse, sa thèse de doctorat, sur justement la joute. Et donc, il a étudié les jouteurs, la joute givordine et lyonnaise, hein, bien sûr, puisque c'est une joute qui est assez traumatisante pour les membres inférieurs. Puisque la position est au grand écart latéral. On a un plastron qui est tenu au bras et une lance qui est en appui sur la jambe droite sur un bourron. Donc au moment de l'impact, en fait, on est au grand écart et le corps est vrillé à l'envers du grand écart. Donc c'est d'un point de vue biomécanique, c'est complètement.
Les conclusions, tu as pu les lire ou pas?
Oui, oui, bien sûr.
C'est
bien
pas
sûr.
Adéquat.
Voilà. Non.
Et donc,
il y a beaucoup, énormément de lésions au genou, le genou droit puisqu'il prend tout, hein, il prend énormément de lésions au genou, les épaules. puisqu'elles sont tournées. Et donc, en fait, il disait que les lésions sont assez comparables à celles du foot au niveau des membres inférieurs.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Donc, il a mis en place des protocoles d'échauffement, d'entraînement, etc. etc. Il a fait un boulot vachement intéressant, le gars. Non, non, très, très intéressant. Et du coup, c'est diffusé par la Fédé petit à petit au niveau des clubs, justement pour essayer de prendre soin des jouteurs. Quoi, parce que quand on est au grand écart à 10 cm par terre, là, hein, parce qu'il faut qu'il n'y ait que les deux pieds qui touchent le tabagnon. Donc ça veut dire que quand vous êtes au grand écart, que vous pesez 80 kg et que vous avez une lance qui en pèse 15 kg avec 5,50 m de porte-à-faux, ça tire sur les membres.
50 kg sur la ouais,
à peu près.
De
les plus grandes lances...
Le plastron, lui, puisque tu disais que tu le tenais.
Oui, mais quand on baisse la lance, en fait, on la baisse en tenant la lance sur à peu près 50 cm. Donc on a pratiquement 5,50 m de porte-à-faux.
C'est énorme.
Ce qui veut dire que l'avant-bras gauche qui aide à descendre la lance, sur les plus grosses lances, celles qu'on utilise nous, les lourds et les mi-lourds, qui font 18 pieds, 6 mètres de long, hein, c'est d'environ 45 à 50 kg dans l'avant-bras quand on baisse. Donc imaginez-vous quand vous avez l'avant-bras posé sur la jambe avant au grand écart, en plus de votre poids. Donc ça tire énormément sur les membres inférieurs. Donc il faut être hyper musclé des membres inférieurs. Et puis, il faut quand même avoir suffisamment de force pour tenir la lance à 50 kg. Quoi.
Donc, vous faites beaucoup de musculation ?
Non, on devrait.
On devrait.
On devrait. Mais cet hiver, on s'est un peu relâché au niveau entraînement.
Ah oui ?
Ouais, donc on fait des échauffements, étirements.
Et tu parlais justement. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 50 kg au bout du porte-à-faux, donc c'est énorme. Et après, ça dépend des catégories. C'est-à-dire que plus on est dans les lourds et plus la lance est longue.
Ouais.
C'est longue ça. Et du coup.
Et forcément, lourde.
Son diamètre. Mmh.
Ah oui, le diamètre est encore
ouais,
plus...
C'est 65, je crois.
65 à la poignée, ouais.
Et la force qui est... lorsqu'il y a la percussion, la force est importante ?
Ouais. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, en compétition, les bateaux doivent faire un poids minimal. Ils doivent peser 1,5 tonnes chacun. Et à l'intérieur de ces bateaux, il doit y avoir au minimum 6 personnes pour repousser les jouteurs.
Pour la sécurité.
Pour la sécurité. Parce qu'au moment de l'impact, il arrive que les jouteurs, au lieu de partir à l'extérieur, ils partent à l'intérieur. Donc
ah oui, ils peuvent tomber dans le bateau. Ouais.
Donc du coup, pour pas qu'ils tombent dans les bateaux, les gars sont là pour les repousser à l'eau, pour les mettre vraiment à l'abri.
Ah, ils peuvent pas les remettre droit, en fait.
Non. Quand ils partent, ils partent sur l'arrière du bateau, mais à l'intérieur. Il y en a que ça arrive. Donc quand on est au grand écart, c'est difficile à gérer. Hein. Donc le croisement au moment de l'impact est très important. Et bien sûr, au plus les lances sont longues, au moins on va croiser vers l'intérieur pour rattraper le défaut d'angle de pique. Quoi.
Donc en fait, il faut être souple aussi pour pouvoir pratiquer.
Oui, souple, musclé. Oui, oui. Ah,
c'est un sport.
Donc c'est vraiment
droit,
un sport.
Parce qu'il faut quand même miser un carré qui fait 12 cm quand même. Hein, sur un bateau qui bouge.
12 cm
ouais. 12 cm, oui.
Et ça t'arrive de le rater ?
Oui, mais du coup c'est perdu. Et à ce moment-là, il ne faut pas pousser, il ne faut pas faire mal à l'adversaire, donc il ne faut pas finir le mouvement. Quoi. Si c'est raté, c'est raté. Si c'est bien fait, on peut pousser quand même. Mais les juges, ils verront que la pique n'est pas bonne. Et normalement, vous avez perdu.
Et sinon, la joute en elle-même, c'est un sport dangereux ou pas ?
Ouais, si alors, moi, je dirais, tous les sports sont dangereux dès lors qu'ils ne sont pas pratiqués dans les règles et n'importe comment. Quoi.
Parce que là, si tu tombes, tu peux heurter le bateau. Tu
dans
peux,
l'eau non dans l'eau. Tombe dans l'eau.
Tombe dans l'eau.
Donc, c'est pas dangereux.
Pas plus que ça.
C'est la lance qui peut être dangereuse.
Ben c'est pareil, il faut que le jouteur fasse son boulot comme il faut et qu'il n'anime pas son voisin.
Parce que justement, la première fois, Ambre, elle en fait depuis quelques années. La première fois que tu vois cette lance face à toi, tu n'as pas peur ?
Ça dépend quand qui en tombe. Moi, je n'ai pas eu peur la première fois, mais après, quand on s'habitue, ça va. Mais ça dépend vraiment de la personne contre qui on est.
Il faut que tu aies confiance en face.
Il faut vraiment avoir confiance en la personne en face.
Oui, parce que.
Il y a des mauvais joueurs.
Non, pas à la joute.
Moi, pas que je connaisse.
Moi, non.
Très peu, non.
Mais même dans la fédération, même au sein du club, alors il n'y en a pas du tout.
Ouais.
On est adversaire sur les bateaux, mais en dehors, on se régale. Mais même sur sur des challenges, il y a la même ambiance qu'au rugby, je dirais.
Ouais.
Voilà, c'est très fair play.
Et par contre, c'est vrai que ça doit être impressionnant parce que quand vous tombez à l'eau, elle n'est pas forcément très chaude.
Non, l'île sur la Sorgue, elle est à 13 degrés.
Ça
motive.
Ça te motive pour t'entraîner un peu plus la fois suivante. Hein.
Pour pas tomber surtout.
Parce qu'elle a combien à l'île
13 toute l'année.
13, bon, au moins c'est bien.
Oui,
c'est bon pour la peau.
C'est ça.
C'est pour ça que vous avez la peau douce, hein, douce.
Oh, mais là, les enfants ils se rendent pas compte, ils passent la journée dans l'eau de toute façon. Ils attendent leur tour et puis ils s'en vont se baigner de suite.
Bon, allez, on fait une petite pause et on continue après.
On Sport sur RTVFM.
Allez, on va continuer à jouter avec nos amis. Concernant justement les... On parlait tout à l'heure des techniques particulières, le grand écart, etc. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières pour pratiquer la joute ? Pour qu'on vous intéresse de pratiquer la joute ?
Où il y a aucune façon, il y a nécessité d'avoir un certificat médical.
Ouais, mais est-ce qu'il y a il y a des pathologies qui nous empêchent.
Ah, mais faut pas arriver avec un genou en moins
ou une jambe en moins, c'est
oui,
sûr.
Voilà.
Non, mais on est d'accord. Mais ouais, après, sinon, non, il y a pas de.
Bah, si vous avez des problèmes, on va dire d'ossature en général, hein, que ce soit colonne vertébrale,
hein.
Ouais, ben, vous saurez pas. Le médecin vous fera pas de certificat. Mais a priori, si vous avez une consistance classique, aucun souci.
Bon, c'est bon. Bah, c'est bon, Théo. Hein, t'as embauché.
Moi, j'aime bien en plus.
Comment ?
Il est sympa, Théo.
Non, il est sympa.
On le posera directement sur la berge de la barre.
Ouais. Alors, par contre, il faut faire attention parce que s'il y a un peu de vent, j'ai peur qu'il s'envole.
C'est ça.
Bon, donc, tu seras dans les légers.
Avec deux pointes de sambeille, on le clôt.
On mettra un arbre devant, elle s'en occupera. Non,
pas de problème.
T'as vu, Théo, ils vont bien s'occuper de toi. On parlait tout à l'heure des championnats. Donc, il y a un championnat de France, il y a une Coupe de France. Il y a des divisions.
Non.
Où vous êtes tous. Il n'y a pas beaucoup de clubs, donc vous êtes tous ensemble.
Ouais, on est tous réunis.
D'ailleurs, c'est un peu le débat en Lyonnaise et en Givordine, parce qu'effectivement, le championnat de France se réduit grosso modo à un championnat de Rhône-Alpes. Quoi. Donc, ouais, c'est un petit peu le débat. Donc, ouais. Il y a quand même du monde. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'entre de Lille-sur-Sorgue, on va dire, à Digué, tous les clubs sont là. Quoi. Il y en a quelques-uns hors de Loire, mais bon, quand ils envoient 2-3 jouteurs qui sont dans le coup, ça ne va pas plus loin. Quoi. Donc du coup, au niveau du ministère et de la Fédé, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Quoi. Mais bon.
Et sinon, donc, bon, il y a le championnat, et lors des compétitions, un week-end de compétition, c'est quoi ? C'est 2 jours samedi-dimanche ou c'est 2 jours ? Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que... il y a des éliminatoires, demi-finales, finales par week-end ou
ils accumulent les points tous les week-ends, donc après il y a qu'une finale.
Alors voilà, on a, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc les challenges, on accumule les points. Donc le samedi en général, c'est les jeunes jouteurs, hein, ce qu'on appelle l'école de joute, d'accord, à partir de 11 ans, et les féminines très souvent. Et le dimanche attaque donc cadet, junior, senior. Voilà. Et donc, ils cumulent des points tous les week-ends au challenge. Et ponctuellement, à un moment, il y a la demi-finale, les éliminatoires du championnat de France. Après, un autre week-end, il y a les demi-finales du championnat de France. Et le dernier week-end, en général septembre, il y a la finale du championnat de France, où là, ne sont qualifiés que les 4 premiers qui sont sortis des éliminatoires tout au long de l'année.
Ah oui, donc voilà. Il y a quand même pas mal de compétitions.
À tous les week-ends. À partir du 1er juin au 1er septembre, tout le week-end.
Donc la saison est très courte.
Très très courte, intense.
Parce que vous avez peur de l'eau froide, c'est ça, les filles, hein,
c'est plus chaud sur le Rhône. C'est plus chaud le Rhône.
Ah, c'est passé. Ah, oui. Oui.
Et comment ça se passe au niveau des bateaux, etc. C'est-à-dire que
ils n'ont pas de moteur.
Non, mais parce que tout à l'heure, il disait on t'appelle sur un bateau. Mm. C'est pas ton propre bateau?
Non, ah ben non, pas un
compétition. Ah ben moi, non, je croyais. Attends,
si c'est terné, organisé, c'est les bateaux à terner, on monte pas nos barques chaque fois.
Voilà, non, mais je croyais justement qu'on prenait les barques, on les mettait sur des remorques. Comme...
Nous, puis, on le fait parce qu'on part en déplacement. Nous quatre, voilà, c'est perso.
Donc, en fin de compte, comment ça se passe une compétition? On t'appelle?
Le club organisateur, donc il y a eu des réunions, bien sûr. Donc, un calendrier est établi par la Fédé. Et le club organisateur fournit tout, matériel. En termes de lance et tout ce qui est bateau, etc. D'accord ? Toute la logistique est assurée par le club qui reçoit le challenge ce week-end-là.
D'accord. Donc, si tu as le bateau le plus pourri, tu peux te dire
qu'il est. Ah non, non. Alors, les bateaux, vous ne pouvez pas avoir des bateaux pourris puisque les bateaux sont homologués par la Fédération française de joutes et sauvetage nautique. Les lances aussi, sont homologuées et les plastrons sont homologués. Si vous n'avez pas le matériel homologué, vous ne pouvez pas organiser un challenge. Donc, c'est vite fait. Donc, du coup, tous les bateaux et toutes les lances et tous les plastrons sont exactement les mêmes. Que vous veniez jouer à l'Île-sur-Sorgue ou à Melun, ou voilà, c'est tout pareil.
Et au niveau de l'équipement, donc tout à l'heure on en parlait hors antenne, hein, je disais les bleus, les rouges, donc il n'y a que deux couleurs, hein, tu disais.
Il n'y a que deux couleurs, bleu et rouge, oui.
Deux et rouge. Et donc on a sa couleur et on est appelé. Donc alors, bleu.
Oui. Nous, c'est l'Île-sur-Sorgue, ça.
Oui, oui, après en compétition, vous appelez sur n'importe quel bateau. Hein. Oui, puis d'ailleurs, les jouteurs passent de l'un à l'autre selon la position où ils sont.
D'accord.
Oui, donc ça ne pose pas de problème. Donc, après, on ne va pas refuser de jouter parce qu'on est sur le bleu ou le rouge, on le fait quand même.
En fait, c'est celui qui reste le plus longtemps sur le. C'est le même système que.
À Lille, c'est le financier qui choisit sa couleur.
Alors oui, à l'Île-sur-Sorgue, quand on est, par exemple, oui, effectivement, quand on est deux jouteurs du même bateau en finale, par exemple, enfin, au bout du tournoi, en Lilenk, effectivement, on laisse la primeur à l'ancien. C'est pour ça que quand j'y suis, moi, je suis toujours.
T'as toujours la primeur du
choix. Je suis toujours le plus ancien, donc du coup. C'est ça. Mais bon, maintenant, j'arrive de moins en moins en finale quand même. Parce que
quand même. Des costauds.
Bon, mais je leur fais pas.
Vous n'avez pas de catégorie quand même, tous les deux?
Si.
Eh si. Non, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein. Enfin, il y en a encore sous le pied. Hein.
Non, mais j'imagine. Hein.
Ah ouais.
Non, mais on joue dans la même catégorie. Les lourds, seniors lourds, on ne fait qu'une catégorie, elle est sur Sorgue. Ouais.
Et au niveau des règles, bon, la règle, c'est de mettre la personne dans l'eau. Mais est-ce qu'il y a également des critères techniques? La manière dont on va pousser la personne, est-ce qu'il y a un jugement là-dessus?
Oui.
Comment, c'est-à-dire que, est-ce qu'une personne qui tombe à l'eau, donc celui qui a poussé la personne à l'eau est forcément gagnante?
Non.
Ou pas forcément, parce que justement il y a les critères esthétiques.
Non, pas esthétique forcément, mais il faut que ce soit fait comme il faut que la lance soit dans le neuf. À l'Ilinx, c'est le neuf, le carré où on met la lance, où la lance adversaire doit rentrer, et il fait 9 cm de côté, donc on appelle ça le neuf. En Givordine, il fait 12 cm. Voilà. Si déjà d'emblée la lance ne rentre pas dans le neuf, c'est déjà perdu.
C'est ce fameux carré qui est sur le
petit carré blanc
carré qui est sur le plastron.
Ouais, le plastron de l'adversaire. D'accord. Vous en avez un vous et l'adversaire en a un autre. Il faut bien que les lances rentrent dans le carré. Autrement, c'est déjà perdu. Ouais. Après la Givordine, il ne faut pas qu'ils aient briqué.
Alors, en Givordine, il y a beaucoup d'autres règles supplémentaires. Ouais. Mm-hmm. En Givordine, le 9, donc, c'est la première faute puisque c'est au moment de l'impact. Dès l'impact, vous voyez si vous avez attrapé le centre du plastron ou pas. Enfin, les arbitres voient. Donc déjà, si vous n'avez pas le centre du plastron, déjà vous avez perdu.
Il y a un juge pour chaque bateau,
voilà.
Enfin, pour chaque jouteur du coup.
Donc il y a un juge, les juges sont sur les bateaux?
Non,
sur la berge. Mais comme les bateaux se croisent, il faut un juge qui aura d'un bateau et un juge qui aura de l'autre bateau.
Et, voilà. Et le troisième qui fait la synthèse de tout.
Voilà.
Et un quatrième qui est de l'autre côté pour voir les deux côtés de la berge.
Ils ont la vidéo aussi.
Les deux berges.
Ah ouais?
Ah oui. Oui.
Ça... Ils ont le arrêt sur image.
Non, mais rigolez pas. C'est arbitrage vidéo. À la joute, c'est arbitrage vidéo.
Oui,
et la Lilinque, on a une sorte de barre où on ne doit pas la dépasser. Et si en Lilinque, tu la dépasses, ben, c'est pas.
Ah oui,
c'est
une
pas
limite.
Oui, c'est une pénalité, ça aussi.
Ah donc,
il y a un trait blanc, sur ta bagnole. Il
ne
faut pas dépasser.
Un truc comme ça, je crois. Voilà. Ça s'appelle mordre la ligne.
Mordre la ligne.
Ça, je ne sais plus.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Mais tiens, il y a des jargons quand même assez particuliers. Les filles, vous avez essayé de nous aider parce que Valérie,
oui, on
sait c'est quoi le bourron?
Ah, le bourron.
Ah, ben, c'est un Givordine.
C'est un Givordine, c'est la fameuse, le fameux appareil, enfin, un morceau de tissu en général qu'on met à la.
Ou une cale.
Ouais, c'est une cale qu'on fixe sur la cuisse droite et on vient y appuyer la lance dessus pour pas que la lance glisse.
Eh oui. Le tabagnon.
J'allais dire le tabagnon.
Le tabagnon, c'est là où est posé le jouteur. Et c'est là où il y a une cale qui est à droite du tabagnon et le trait blanc qui sert en Lilinque.
Ça dépend.
Le tabagnon, c'est là où
c'est
se positionne
la plateforme
positionne le jouteur.
Haut,
ah, tu vois, j'ai bien compris.
En hauteur du c'est bateau. Ça. Il n'est pas à la même hauteur.
Il n'est pas à la même hauteur.
Il est un peu haut.
Et le tabagnon, il est grand?
Alors, ça dépend des méthodes. Et puis, il ne s'appelle pas tout le temps tabagnon.
T'es où?
Tabagnon, c'est pour la Lilinque et la Givordine et la Lyonnaise.
Ah bon ?
Ah oui. Après, en l'alsacienne, c'est le trinquet.
Le trinquet ?
Ouais. En provençal, ben, c'est la tintaine.
La tintaine ? Non, c'est pas grave, c'est Valérie qui a un petit problème de son, mais nous, ça marche bien.
En provençal, c'est la tintaine.
Ouais.
Et en provençal, la tintaine, par exemple, elle fait 50 cm de large et 40 cm de long. 40 cm de long et elle est coupée en deux par un trait. Mmh. Et le pied de devant ne doit pas dépasser ce trait. Donc, en fait, vous êtes pied joint, quoi, quasi.
C'est encore plus dur.
Ah, c'est hyper dur, la provençal.
Oui, c'est lance, là.
Et après, en languedocienne, les tabagnons... Enfin, alors là, je crois qu'aussi... Je ne sais plus comment ils s'appellent, je n'ai plus le nom, mais elles font 1,20 m de long, les tintaines.
Et donc nous, là, c'est un peu plus...
Ouais. Nous, en Givordine et Lyonnaise, elles font 2,20 m de long.
Et il faut rentrer le grand écart dedans.
Ouais,
oui.
Ben, un gars qui fait 1,90 m ou 2 m, quand il fait le grand écart, il lui faut 2 m passés, quoi.
Ah oui. Tiens, on va parler d'un peu des fautes. C'est quoi le briquet ?
Ah, alors ça, c'est un Givordine.
C'est ancestral, ça.
Alors pourquoi c'est briquet ancestral. Parce qu'en fait, les matelots de la vallée du Rhône, quand ils étaient punis, on les faisait briquer le bateau. On les faisait frotter le bateau. Et donc, quand on fait cette faute-là, que le genou... Enfin, un autre point que les deux pieds viennent toucher le tabagnon, en l'occurrence, là, puisque c'est un Lyonnaise et un Jourdine, eh bien, on dit, voilà, t'as fait une faute, t'as fait briquer. Et donc, t'es puni, t'as perdu.
Donc, t'as posé le genou.
En général, le genou, ou ça peut être le mollet à l'avant.
Le bourron aussi.
Ou le bourron. Ils sont tellement grand écart, les gars, que le bourron, s'il est un peu de côté, il vient toucher. Et le mollet, ils sont tellement allongés que le mollet de devant, il vient toucher. Voilà, enfin, ils sont tellement en grand écart, les gars, que c'est pour ça que la vidéo est très importante, parce qu'il y a des fautes que vous ne pouvez voir qu'à la vidéo. Quoi. À vitesse réelle, c'est très compliqué à voir. Quoi.
Et il y a une autre faute, c'est le lâcher.
Le lâcher, ouais.
C'est la main de devant.
C'est la deuxième.
C'est-à-dire ouais. Qu'on lâche la main.
À la pique, la lance vous est arrachée.
Ah oui.
C'est interdit de lâcher sa lance.
C'est interdit.
Il faut la garder dans les deux mains.
Dans les deux mains. Bon, vous avez vu un peu tout ce qu'on aura appris.
Mais la lance, moi, je ne fais pas le tour, hein, avec la main. C'est gros. Hein.
Ah ouais, c'est.
Ah oui, je ne fais pas le tour la lance.
Et vous imaginez 65 mm dans la main, et ça fait ça, quoi. Donc ah oui, du coup, les gars, ils sont obligés. On est obligé de rouler le poignet pour pas que la lance s'en aille. Quoi.
Et ça arrive que des lances cassent ?
Bien sûr. Oui, ouais, ouais. Ça, c'est un classique, ça.
Puis le souvent, organise, il n'est pas content, parce qu'en général, c'est quand même assez cher, le matériel.
Ah oui ?
Ah, puis, c'est un challenge, ils en cassent quoi ? Une vingtaine, une dizaine.
Notre record, nous, à l'Issure-Sorgue, c'est 35 lances de cassé à 80 euros la lance, faites votre compte.
Voilà.
T'as gagné la journée.
La buvette, c'est dur à récupérer.
J'allais dire, même si vous avez fait tourner la buvette toute la journée, vous êtes mal, quoi.
Et concernant la tenue du jouteur, elle est standard ? Bon, après, il y a les couleurs, mais c'est-à-dire quoi ? C'est pantalon, short, maillot de bain ?
C'est ça, short.
Vous voulez ce que vous voulez dessous,
ouais.
Mais c'est short, basket, chaussettes.
En Givordine et Lyonnaise, il faut absolument un short blanc qui soit en dessous des genoux, d'accord, qui arrive en dessous du genou. Il faut un maillot à manches longues ou à manches courtes, mais plutôt manches longues, et des chaussettes qui montent jusqu'au-dessus du mollet.
Et il passe à l'inspection aussi avant de monter.
Ah oui, il y a une
vérification. C'est une tradition ?
Non, c'est une tenue qui est réglementaire. Et avant de monter sur les bateaux, les arbitres vérifient la tenue. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la tenue.
On dirait des anciens footballeurs des années 50-60.
C'est ça.
Exactement.
Tu sais, avec les shorts longs,
exactement,
les chaussettes qui montent haut, les chaussettes de foot qui montent haut.
Bah, y a certains, ils sont peut-être footballeurs des années d'époque. Hein.
Ouais, peut-être.
Il y a énormément de footeux et de rugbyman qui font ce sport-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand ils arrêtent leur saison, les joutes attaquent. Et quand les joutes finissent, hop, ils rattaquent la saison. Donc on a énormément de gars qui font du foot et du rugby qui viennent faire de la joute.
Ah ouais.
Ah oui, oui. Nous, dans la vallée du Rhône, c'est tout ce que je connais, c'est 80%, c'est des footeux ou des rugbyman. Hein.
Marc, ça les maintient en forme.
Ah, exactement, voilà. C'est ce qu'ils disent.
En plus, ça joue au niveau de la souplesse, ce qu'ils n'ont pas nécessairement. Hein.
Ouais, bien sûr.
Ce qu'ils n'ont pas nécessairement, parce que là, c'est vraiment de la souplesse. Hein.
Non, ils disent ça. Ils disent, pour nous, c'est impeccable, parce que ça nous maintient en forme toute l'année. Quoi. Ah.
Puis...
Et vous, les filles, pourquoi vous avez voulu faire de la joute ? Parce que papa en fait, Jeanne ?
Moi, ça a été...
Ambre, pardon.
moi, parce que mon papa aussi en faisait, mais un jour, je suis allée le voir en compétition et j'ai vu l'ambiance et tout, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai dit, je ne peux pas que je passe à côté. J'ai essayé, ma première passe, ben, je l'ai gagnée en plus, donc ça, c'est ce qui m'a encore plus motivée. Et voilà,
mais chez nous, c'est beaucoup une histoire de famille quand même. Il y a beaucoup de... Bon, là, il y a les enfants de Thierry et de Papoun. Anne Gontard. Voilà, c'est dit Papoun. Tout le monde l'appelle Papoun.
Ouais. Ah oui.
Mais on a plusieurs familles. Céline qui a ses trois enfants, on a Aurore qui a ses deux fils. Enfin, c'est... Et je vous dis, souvent les parents, ils montent, finissent par monter. Mmh. On a Lucien, son père, ouais, il me dit, oh, bah, je viens ramer avec vous. Il manquait des rameurs, il montait pour ramer. Et puis finalement, ça y plaît. Il dit, Eric, on va mettre à l'eau. Donc ça leur plaît.
J'ai joué contre la mère de Lucien.
Et toi, Jade? Parce que la pauvre, elle est de côté, elle essaie de... Vas-y, dis-nous tout.
Bah, parce que déjà, je venais souvent avec ma maman voir pour récupérer Ambre. Et un jour, j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, donc je me suis incrustée. J'ai joué avec eux et tout, et un jour, ils m'ont demandé d'essayer. J'ai essayé, j'ai bien aimé, et du coup, ils ont payé l'alliance.
Ouais, mais il n'y a pas que ça, tu m'as dit aussi. Hein, que tu t'es mis à la joute. Il n'y a pas un garçon aussi qui l'a fait?
Ben oui, mais c'est, ça, ça c'est les enfants de Céline, ça.
Ben, parce qu'il y a mon amoureux là-bas.
Ah, voilà. Donc au moins, Thali, l'utile à l'agréable.
Ouais. Voilà.
T'avais bien raison.
Et tu joutes contre ton amoureux?
Quelquefois. Et
quelquefois, tu le mets quelquefois dans l'eau? Ou c'est lui qui te met dans l'eau?
Ben, quelquefois.
Ils sont galants,
quelquefois,
les enfants Lyoto.
Et quelquefois, je joute contre son frère.
Ah. Et sinon, justement, par rapport à cet âge-là, les filles rencontrent les garçons et vice-versa? Ou pas forcément? Parce qu'il y a gabarit quand même.
Pas en compétition, non?
Non, en compétition, non. Mais chez nous bah, on fait en fonction du gabarit. Quoi, ouais. On essaie d'équilibrer un petit peu les choses chez les enfants pour que tout le monde y trouve son compte. Quoi. Après, allez. Nous, les anciens, nous, on met tout dans un chapeau et on tire au hasard.
C'est surtout sur la tranche d'âge. La tranche d'âge, il y a, pour les 7-14 ans, il n'y a pas beaucoup de filles. Il n'y a qu'une parisienne qui était là il y a 2 ans. Et Jade et moi, c'est tout ce qu'il y a comme
donc
filles.
Donc, joute contre les garçons, c'est donc pareil.
Oui, c'est pareil.
Bah, ouais. C'est mieux, ça nous rend plus grandes, en fait, sur un piédestal. Parce qu'on se dit, mince, on est contre des garçons. Ils nous disent qu'on est nuls. Mais en fait, c'est eux qui finissent le plus souvent dans la sorte. Donc, c'est ça aussi qui
ils sont subjugués.
Oui, Jade.
Sur les joutes, il y a 3 passes à chaque fois. Et une fois, bah, j'ai joué contre un garçon, j'ai gagné les 3 passes.
Ah ouais.
C'est facile après.
Et après, il a arrêté le sport.
Et il est parti. Démotivé, ouais.
Ça a démotivé, ouais. Allez, on fait une petite pause et on parle justement du club de Lille.
I hope you got a healthy appetite.
Parlons sport sur RTVFM.
C'est ton anniversaire, Théo ? Non ? Non, parce que Happy Birthday, juste à la fin, je me suis dit, ça y est, on a oublié quelque chose et on a oublié de fêter l'anniversaire de Théo.
Non, non, il est né un 3 janvier.
C'est bah non, mais c'est pour ça, j'étais un peu surpris.
Il fête son anniversaire en avance.
Bah, oui, bah, largement à l'avance. Il a envie de grandir, en fait.
Ouais, il a besoin. C'est ça.
Bon, parlons du club de Lille. Combien d'adhérents ?
Une cinquantaine.
Ouais, à peu près. Ouais.
Ah, quand même hein. Tout, ouais.
Ben, en comptant les mamans, les papas,
oui, mais ceux qui pratiquent.
Ah, oui, oui. Ah, ceux qui pratiquent, on est quand même moins nombreux. Mais à oui. pratiquer, mais...
On aimerait être plus que ça quand même.
Ouais.
On aimerait pouvoir recruter un peu plus.
Ah ouais.
Mais c'est vrai, ça impressionne quand même, malgré tout, de le voir faire. Hein.
Parce que le club, il a été créé en quelle année ?
Alors, comme je disais, en 1952. Donc, c'est les quatre mousquetaires là, qui ont créé ça. Donc, alors, les noms, le plus connu, c'est M. Légier. C'est un vieux Lillois. Enfin. Et donc ils se sont mis à plusieurs là, ils ont créé ce club en 52.
Ah donc il est vraiment
très ancien. Très ouais, assez vieux. C'est un club qui est assez vieux, les sur ça.
Et combien d'embarcations vous avez ?
Deux, une rouge, une bleue.
Ah oui.
Plus et donc bateau de sauvetage.
Malgré tous les jouteurs qu'il y a, on se monte pas les uns sur les autres.
Une passe de joute, c'est assez rapide quand même.
Voilà. Et le temps qu'on sorte de l'eau et tout ça, c'est.
Oui aussi.
Et on parlait tout à l'heure des compétitions pour les enfants, c'est-à-dire que c'était à partir de 11 ans, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Par contre, au niveau des clubs, vous pouvez prendre les enfants à partir de quel âge ?
Ben nous, on est en e-learning surtout, donc on en a des jeunes. C'est quoi ? C'est 7 ans le plus jeune, je crois.
7 ans, oui, c'est Lucien le plus jeune.
Moi, mon fils, la première passe qu'il a fait, il avait 5 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Il y a un âge minimum que la fédération vous impose ou pas ?
Nous, c'est 11 ans la fédé, mais sinon, nous, en club, on fait ce qu'on veut.
Mais avant 11 ans, il ne pourra pas faire de compétition.
Pas de compétition officielle, pas de compétition officielle.
C'est surtout qu'en Lilinque, il n'y a pas de compétition officielle parce que la Lilinque n'est pas reconnue par la Fédération Rhône-Alpes. Donc nous, c'est nous, au club de Lille-sur-Sorgue, on est libre au choix de mettre l'âge qu'on
local.
Veut. C'est local.
Et toi, tu préfères quoi, la Lilinque ou la Givordine ?
La Lilinque, mais j'ai un coup de cœur aussi pour la Givordine. J'ai mes raisons personnelles.
Ah bon ?
Oui.
On ne peut pas les savoir ?
Non.
Non, bon bah alors.
Il y a un amoureux dessous.
Ah non, bon même pas.
Il y en a eu
pas.
Aussi.
Il
ouais.
y a eu, mais non.
Il y a eu, mais non.
Jade, je peux même pas lui poser la question parce qu'elle fait que la Lilinque,
oui.
Son âge.
Mais elle a commencé juste maintenant, donc oui, oui.
Ah oui, ça. C'est ça, ouais, que la Lilinque. Parce que la Givordine, c'est vraiment officiel, quoi.
Ah oui. Mais moi, c'est pareil, j'ai commencé que par la Lilinque. Hein. Tout le monde. La Givordine, j'ai découverte en voyant une finale. La finale Serrière, et ça m'a plu, c'est magnifique à voir, et j'ai dit, je vais essayer. Donc, on a essayé.
En 2017, quand on est allé à la finale à Serrières.
Mais par contre, un jour, on a fait des belles passes. Et en fait, avec Mathis et Nico, on a voulu s'amuser un peu. Et j'ai testé la Givordine avec un sort de bâton qui était cassé. Et ils m'ont dit que j'avais une bonne position et tout. Que si j'avais
mettre.
L'âge, je pouvais. Quoi.
Ah ouais,
on va les mettre.
Mais toi, tu peux faire
pas
quoi,
les confier, on peut pas les confier. Ouais.
Pour la facilité, la Lilinque, mais plus grande, je sais pas encore. Si ouais. Je pourrais faire de la Givordine ou pas.
Ah d'accord. Et au niveau des entraînements, c'est quel jour que vous entraînez ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des entraînements déjà ?
Oui, normalement, l'hiver on est censé s'étirer, faire courir, du gainage, courir. Oui, on a bien fait l'année dernière. Cette année, on a fait un peu moins.
Ouais.
On a bien fait l'année dernière. Et on fait ça le samedi en général, mais c'est pareil, c'est bon enfant, c'est samedi.
Et quand la saison a commencé ?
Ah ben c'est samedi, mercredi.
Mercredi soir et samedi après-midi.
Mercredi et soir, après... c'est quoi les horaires ?
À partir de 18h, on met en route les bateaux, puis on arrive, joute qui joute. Bon, le gros, c'est quand même 18h30, 19h, le mercredi soir. Mais après, le samedi, ouais, effectivement.
Et après, c'est par catégorie, par âge
Alors là, non, c'est l'entraînement.
C'est des petites compétitions, les entraînements ?
Non, les entraînements,
non. Non, non,
qui c'est... veut passer, qui veut repasser, voilà, qui veut réessayer. Ouais. Moi, je vais essayer lui, je vais essayer lui. Voilà.
C'est la bonne franquette, là.
On s'affronte.
Moi, oui, s'affronte.
On choisit nos adversaires. Et...
Donc, tu remontes mouillé et tu repars.
Ah oui, oui.
Ah, mais mouillé...
De toute façon, on est obligé de les mouiller. Oui. L'été sur la Sorgue, c'est obligé. Même celui qui tombe pas à l'eau, il est mouillé quand même. Du moment qu'il monte, il faut les mouiller, autrement on risque l'hydrocution et tout ça. Donc, d'emblée, ils sont mouillés. Donc, ils craignent parce qu'on leur jette un peu de l'eau à la figure. Ça leur fait du bien.
Surtout à 13 degrés.
Non, mais voilà, on a mis quelques règles en place pour éviter certaines choses, ouais, notamment les échauffements pour ceux qui font de la Givordine. Et effectivement, ceux qui montent sur la Tintin ou le Tabagno, selon la même méthode, systématiquement, eux, ils sont mouillés. Pour éviter ces phénomènes d'hydrocution, parce que quand vous êtes demi-heure ou trois quarts d'heure au soleil...
Ouais, le choc thermique, il est énorme.
Ah, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Non, quand vous tournez depuis demi-heure dans la barque à 30 degrés... Ouais.
Et tombe dans l'eau à 13 degrés.
Ouais, ça calme.
Ça calme bien.
Et vous vous entraînez où sur la Sorgue ?
à la cigalette. La cigalette à l'entrée de l'île de la ville, c'est le Pologne du Basset.
Mmh. Voilà. C'est le théâtre, l'ancien théâtre de la Sorgue, qui est maintenant le lieu de pratique pour le kayak, pour les negaching et les shooters.
Et il y a assez de profondeur, parce qu'on parlait pas, on n'a pas parlé de profondeur, mais il y a une profondeur minimale, je pense, pour pratiquer ou pas?
Du moment que vous avez 1m50 d'eau, ça suffit largement même.
Ouais.
Oui, parce que ce sont des barques plates.
Ouais.
Oui, oui. Mais c'est pas trop pour la barque le problème.
Ouais.
C'est plus pour le shooter qui tombe dans l'eau. Faut pas taper les cailloux.
Ah oui, ouais, on tombe pas de très haut.
Si t'as encore 1m50.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au plus on va vers les terres, au plus la hauteur du tabagnon est basse. Il est petit. Et au plus on va vers la mer, au plus les tabagnons, enfin les tintins, les plateformes, comme on veut, hein, sont très hautes. C'est-à-dire, quand vous allez à 7, les gars, ils sont à 3 mètres de haut. Quand vous allez à Martigues ou enfin, en Provençal, ils sont à 2 mètres, 2,50 mètres. Donc du coup, quand ils tombent, effectivement...
Il faut de la profondeur.
Voilà, il faut de la profondeur. Mais eux, ils sont au bord de mer, donc au bord de mer, dans les ports ou dans les endroits
où ils jouent, il y a
3 ou 4 mètres d'eau, c'est pas un problème. Alors que nous, en Gévaudine, voilà, même à 1 mètre, moi j'ai jouté à 1 mètre.
Voilà, mais quand on joue dans le quai rouge de l'île, il n'y a pas plus. Hein.
Voilà, donc c'est pas...
Donc Valérie, t'es en train de me montrer un papier, parce que je crois que vous avez pas mal de rendez-vous.
Oui. Donc,
parce que ça donnera l'occasion, justement, de venir vous voir.
Bien sûr, il faut. Donc là, on va attaquer la saison par une démonstration. On le fait depuis assez longtemps.
La saison n'a pas commencé. Hein.
Non, pour l'instant, non. Donc, on va faire une démonstration à Ancône. C'est un village qui est à côté de Montélimar. Alors là, effectivement, on part avec tout notre matériel. C'est-à-dire que la mairie de l'Élysée-sur-la-Sorgue, d'ailleurs, je tiens à les remercier publiquement parce qu'ils nous aident énormément, tant sur le point de vue, d'un point de vue financier que d'un point de vue matériel. Ils nous prêtent un camion, ils mettent à disposition le camion donc pour pouvoir emmener ces bateaux. Donc le 24 mai, donc, on va à Ancône. Après, le 15 juin, on fait une après-midi porte ouverte donc, à la Cigalette, à l'Île-sur-la-Sorgue, à notre club.
Donc vous y vite.
Voilà, on si vous voulez venir, vous essayez.
Vous amèneriez le stagiaire aussi avec vous, là.
Ouais, le petit jeune.
Donc, à partir de 14h. Hein,
il va pouvoir pratiquer. Ouais. Lui aussi, il n'est pas un petit gringalet, mais il va... C'est le centre de gravité qui est important.
La technique peut compenser de choses. La technique peut compenser beaucoup de choses. Donc après, il y a le 14 juillet où on fait donc le matin le défilé nautique. C'est une tradition à l'Île-sur-Sorgue. Toutes les associations liées à la Sorgue font le défilé du 14 juillet, mais bon, dans l'eau.
Dans l'eau.
Voilà.
Ah, ça va être sympa à voir.
Ah, c'est assez rigolo. Hein. Il y a donc les plongeurs, il y a les kayakistes, il y a les negoching, il y a les pescailles rédilins, les pêcheurs lillois. Hein, donc, et puis nous. Et ce jour-là vient la reine de la féerie nautique du Corso de l'Île-sur-Sorgue. Donc voilà.
Et donc elle sera sur l'eau.
Oui, bien sûr, sur l'eau, elle descend sur l'eau, sur un negoching.
C'est quoi un negoching?
C'est la barque locale.
C'est la barque typique des pêcheurs.
Parce que putain,
vous n'êtes pas provençal?
Non, c'est pour ça.
Negoching en provençal, ça veut dire noix chien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une barque qui est tellement instable qu'un chien pourrait s'y noyer tellement elle est instable, cette barque.
Ah.
Elle est très petite, elle est complètement instable. Donc du coup, c'est vraiment la barque typique des pêcheurs de l'Île-sur-la-Sorgue et de la Camargue en général, mais de l'Île-sur-la-Sorgue en particulier.
Et pour le défilé, c'est nous qui fabriquons les chars des Jouta.
Ah ouais?
Pour le corso.
Il y a beaucoup de travail alors.
Ah, il y en a, oui.
On a Anthony aussi.
Après, je ne sais pas si on va le faire, mais normalement, cette année, je crois qu'on devait faire le char de la reine.
Non,
ce n'est pas cette année.
Non,
j'ai pas entendu ça.
Non, mais ce n'est pas grave. Tant pis pour la reine, parce qu'à mon avis, il aurait été super bien fait.
Ouais. On en a eu fait, hein, des chars de reine. Donc, après le 14 juillet, ben, le week-end du 20 et du 21 juillet, là, on repart encore faire une démonstration à Salé-le-Dode. C'est à côté de Narbonne, ça fait 3 ans qu'on y va. C'est sur le canal du Midi, entre 2 écluses, c'est tout simplement magnifique. Hein. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment très très bien. Après, le 28 juillet, donc, on a le tournoi du Corso Nautique au Quai Rouget de Lille. Hein. Mmh. Donc, c'est le week-end du Corso Nautique à l'Île-sur-Sorgue, la féerie nautique. Après, le 2 août, on fait la fiesta des quais à l'Île-sur-Sorgue. Donc, au bassin, on joue, on fait une démonstration, on participe.
C'est la rame, là.
Voilà, là c'est un traditionnel complet.
On va nous envoyer éventuellement.
Je vous le laisse après.
On va pouvoir publier et informer nos auditeurs.
Après le 15 août, on fait un nocturne depuis 3-4 ans.
Ça c'est très sympa.
C'est sympa, c'est rigolo à 21h. Et donc il y a énormément de monde. Là, c'est probablement le tournoi où il y a le plus de monde. Et bon, il faut que le temps soit de la partie aussi quand même.
Ouais, ça c'est sûr.
Et on termine la saison par le 1er septembre, donc un tournoi de clôture à la Cigalette dans notre club. Voilà.
Et en plus de, et en complément de ça, vous avez le temps de participer aux championnats de France et aux compétitions.
Le samedi, le dimanche, on essaie d'envoyer.
On prend les voitures, on monte. Papoun, souvent, il mène les shooters en compétition.
Alors, Papoun, c'est donc Alain Gontard, notre premier champion de France, et c'est le coach attitré de. C'est le formateur de champion. C'est lui qui nous a sorti tous les champions.
Bon, bah écoute, Valérie, t'as vu un peu tout ce qu'on a appris sur les joutes?
Bah oui, parce
c'est vraiment intéressant.
Ah oui, parce que vraiment, c'était un sport que je ne connaissais pas. Bon, comme je dis, j'ai vu un petit peu à la télé, on voit ça, mais surtout 7 ou 1.
Bien sûr.
Voilà, on parle de 7, on parle que de.
Connu.
De toute façon, on ne parle que de 7.
Non, bah,
on
rien qu'à 7, il y a 11 clubs. Voilà. Rien qu'à 7. Donc, c'est énorme.
Et tout à l'heure, tu disais société, mais aussi à 7, ils s'appellent société. Ils ont 7 sociétés.
Il y a quelques clubs où il y a des noms de sociétés. Ouais. Mais alors pourquoi? Je ne sais pas.
Bon, bah en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre.
Merci de nous avoir invités.
Thierry,
merci beaucoup.
Merci aux sportives, Ambre et Jade. Merci beaucoup.
C'est bien grand mot pour l'instant.
Ah, oui, non, mais à mon avis, je me fais
les
pas trop.
Les futures championnes, pourquoi pas championne
peut-être.
De France.
La relève.
Et puis, écoutez, on viendra vous voir parce que vraiment, vous nous avez donné envie justement de découvrir ce nouveau sport. Dernière petite question, vous avez un site internet?
Oui, mais alors c'est quoi le nom?
Oh, je sais plus.
Non, mais on mettra sur.
Jouteur Lillois, vous tapez Jouteur Lillois.
Et une page Facebook?
Non, une page Facebook. C'est une page Facebook, pardon.
Ah oui, une page Facebook.
C'est une page Facebook.
Bon, on la mettra sur le podcast, comme ça, il y aura toutes les informations. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Merci ma petite Valérie.
Merci
mon petit Théo. Merci
pensez
à notre stagiaire préféré.
Passez la journée porte ouverte, venez essayer.
Ouais, c'est la date, c'est tu
15 juin.
Allez, le 15 juin. C'est parti, c'est noté. Bonne semaine.
Et même si vous oubliez les tenues, on a de quoi vous équiper, vous inquiétez pas.
Bah, de toute façon, il faut le maillot de bain.
Ça tombe bien pour lui.
Allez, bonne semaine sportive à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine.